RCF, Thierry Delis.
Il est tout juste 16h sur RCF Reims-Ardennes en ce dimanche après-midi. Très heureux d'être avec vous pour vous accompagner deux petites heures jusqu'à 18h. Alors avec au programme, bien sûr pour commencer dans quelques secondes, on parlera et on écoutera les Platters et Harry Belafonte dans Gospel. Le magazine Solidarité avec Laure de la Judie de RCF Cœur de Champagne nous proposera « Quand les rêves donnent des ailes », c'est l'engagement de l'association Petit Prince, et nous en parlerons dans une dizaine de minutes maintenant. À 16h25, idée de lecture avec Thierry Livoire, deux romans qu'il nous propose sur les liens familiaux, et puis le magazine Tous Frères et Sœurs, ce sera à 16h30 avec Bénédicte Cousin et Sylvie Lahotte pour nous parler de protection de l'enfance. C'est ce que nous verrons plus en détail tout à l'heure, dans une demi-heure maintenant. Question d'économie avec Gérard Marie-Henri sur les difficultés d'ArcelorMittal. Et puis, juste avant 17h, le magazine Forum. On va parler de recrutement à la gendarmerie avec le major Corinne Marchand et Jean-Pierre Benoît. Ce sera Forum, donc juste avant 17h. 17h, les clés de l'univers avec Daniel Dermy et Vincent Le Tillois pour le ciel du mois de décembre. Un programme chargé pour l'heure à venir, donc sur RCF Reims-Ardennes. Mais on va faire une petite respiration musicale avec le gospel de Marie-Françoise Gagne et Valérie.
Gospel avec les Platters et Harry Belafonte. Les Platters et My Prayer. Harry Belafonte et March Down the Jordan. Et notre intermède instrumental, Sunrise Serenade, par Glenn Miller et son orchestre.
When the twilight is gone, and no songbirds are singing, when the twilight is gone, you come into my heart, and here in my heart you will stay while I pray. My prayer is to linger with you at the end of the day, in a dream that's divine. My prayer is a rapture in blue with the world far away and your lips close to mine. The same for as long as we live.
My
down to Jordan and wash your sins away. You gotta march down, march on down. You gotta march down to Jordan. Hallelujah. You gotta march down, march on down. You gotta march down to Jordan. Hallelujah. How well, where are you going, my sisters? Where you going now? Well, you better march down, march on down. You gotta march down to Jordan, hallelujah. You gotta march down, march on down. You gotta march down to Jordan, hallelujah. Oh, well, where are you going, my brothers? Where are you going now? Well, you better march down, march on down. You gotta march down to Jordan. Hallelujah. Have you heard of that city? They say it's built four square. He said he wanted his people. I will meet him over there. Yes, you better march down, march on down. You gotta march down to Jordan. Hallelujah.
Hallelujah. Oh, where are you going, my leader? Where are you going now?
Well, I'm going on down to the river Jordan. Gonna wash my sins away.
You better march down,
march on down, march on down to the river Jordan and wash my sins away. Hallelujah, you gotta march down, march down. You gotta march down to Jordan. Hallelujah. You gotta march down, march on down. You gotta march down to Jordan. Hallelujah. You gotta march on down to the river Jordan and wash your sins away. Yes, you gotta march on down to the river Jordan and wash your sins away. You gotta march to the river and wash your sins away. Won't you join me? Wash yourself in the river Jordan. Hallelujah. Now I got shoes and you got shoes. All of God's children got shoes. March on down to the river Jordan and wash our sins away. Gotta march on down to the river Jordan and wash your sins away. Gotta march on down to the river Jordan and wash your sins away.
Aujourd'hui dans Gospel, Les Platters et My Prayer, New York 1956, Glenn Miller et Sunrise Serenade, New York 1939, et enfin Harry Belafonte et March Down the Jordan. See you soon!
Les Platters, c'est Harry Belafonte, c'était les artistes que nous avons entendus aujourd'hui dans l'émission Gospel avec Marie-Françoise Gagne et Valérie sur RCF Reims-Ardennes en ce premier dimanche de l'Avent. Merci pour votre fidélité à nos programmes et on accueille tout de suite Laure de la Judy de RCF Cœur de Champagne pour Solidarité. Quand les rêves donnent des ailes, c'est l'engagement de l'association Petit Prince.
Bienvenue à l'émission Solidarité. Quand on entend Petit Prince, on pense bien sûr aussitôt à l'œuvre de Saint-Exupéry. D'ailleurs, je crois que c'est voulu. c'est un livre qui apporte de la joie, qui a une tonalité heureuse, un livre où on se croit comme en rêve. Eh bien, c'est justement ce que propose l'association Petit Prince, qui réalise chaque jour un rêve, quelle belle ambition, pour des enfants malades. Pour nous parler de cette si belle initiative, nous recevons aujourd'hui M. Mathieu Jeannin-Gros, qui est directeur de la communication des collectes et des partenariats pour Petit Prince. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Voilà, alors comme première question, eh bien, pour entourer justement et apporter soutien à des enfants malades, il existe plusieurs associations, mais quelle est votre originalité ?
Exactement, l'association Petit Prince a été créée en 1987, donc vous voyez, c'est 37 ans de mission auprès des enfants gravement malades pour les aider à se projeter dans l'avenir, pour les aider à être plus forts contre la maladie, grâce à la réalisation de leurs rêves. Et la particularité de l'association Petit Prince, vous avez raison d'insister sur ce point, c'est que nous, les enfants, nous les suivons tout au long de la maladie, c'est-à-dire qu'un enfant est amené potentiellement à réaliser plusieurs rêves en fonction de l'évolution de son état de santé, à la fois psychologique ou physique. Donc c'est une vraie histoire qu'on construit avec l'enfant et sa famille, ce qui lui permet de le booster pendant des périodes qui sont extrêmement compliquées.
Et alors, en quoi ce rêve, justement, qui est réalisé, peut avoir plusieurs vertus, je dirais, voilà, pour l'enfant lui-même d'abord, pour l'entourage, enfin, comment ça fonctionne ? L'enfant dit un rêve, et puis après, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, nos relais sont les services pédiatriques partout en France. Oui. Avec 150 services hospitaliers. On travaille évidemment beaucoup avec le CHU de Reims, avec qui nous avons des liens très étroits depuis plusieurs années. Nous, les enfants que nous suivons, ce sont généralement des enfants qui sont atteints de cancer, leucémie, maladies génétiques, donc des pathologies extrêmement lourdes, invasives et chroniques. Et l'impact de l'association Petit Prince auprès de ces enfants malades, il se fait en trois étapes, on va dire. Il y a l'avant-rêve, donc quand l'enfant sait effectivement qu'il va réaliser son rêve dans 2 ou 3 mois, ben, c'est une période qui est bénéfique parce que l'enfant se projette, l'enfant pense à autre chose, l'enfant partage aussi des choses positives avec sa famille et évidemment avec les soignants. Il y a le jour J, quand le rêve a lieu, évidemment c'est toujours magique, et avec l'association Petit Prince, on essaie toujours de mettre la barre très très haute, et je vous donnerai des exemples de rêves qui ont eu lieu très très dernièrement. Et puis la troisième, bah, c'est ce qu'on appelle l'après-rêve, c'est-à-dire que l'enfant est suivi tout au long de sa maladie, et l'après-rêve, bah, c'est une période aussi qui est importante, parce que l'enfant, bah, il va partager son rêve avec sa famille, il va parfois, quand il retourne à l'école, bah, ça lui permet aussi, pourquoi pas, de faire un exposé auprès de ses copains. Donc voilà, il y a tout ça qui se met en place, donc c'est l'avant, le pendant et l'après. Donc trois étapes bénéfiques pour l'enfant.
Alors ça a des vertus thérapeutiques d'être porté comme ça par un rêve. Je pense que l'enfant se sent mieux et peut-être la maladie aussi est combattue par là.
Et alors les médecins s'appuient énormément sur l'association Petit Prince. Nous on dit clairement, et c'est ce que nous renvoient aussi les équipes soignantes, on fait partie d'une globalité de soins. C'est-à-dire qu'on s'inscrit aussi dans ce parcours qui est compliqué, qui est ponctué, bah, évidemment, par un protocole médical, par rapport à des traitements, etc. Et nous, bah, pendant cette période difficile, voilà, on dit à l'enfant, bah, voilà, pendant plusieurs mois, sans doute, ça va être compliqué, mais quels sont tes rêves? Quel est ton imaginaire qui pourrait t'aider justement à mieux supporter les traitements, à être plus fort contre la maladie? Donc oui, c'est un levier, un accélérateur de positif pour les enfants et, comme vous le signalez, aussi pour les familles qui subissent de plein fouet aussi la maladie de leur enfant.
Alors, ça ne doit pas être forcément facile de s'insérer dans le rythme des soins et dans un univers de médecine lourde, enfin dans le service hospitalier. C'est peut-être pas forcément facile de créer un rêve. Enfin, ça paraît difficile vu de l'extérieur.
Oui, je comprends. On va dire que 8 dossiers sur 10 émanent des services pédiatriques. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que ce sont les soignants.
Ah voilà.
Ça peut être une infirmière, une éducatrice, un médecin, une psychologue qui va parler de l'association Petit Prince à la famille. Et c'est à ce moment-là que la famille va prendre contact avec l'association. Et c'est à ce moment-là qu'on va découvrir les rêves de l'enfant. Après, c'est une parenthèse qui est positive. Donc ça veut dire que les soignants, ils vont aussi en parler aux enfants et aux familles au bon moment, parce que nous, les rêves ne sont pas médicalisés. Ça veut dire que quand l'enfant réalise son rêve, il faut qu'il soit en mesure voilà. de le réaliser. Donc ça peut être avant un traitement, après une opération. Voilà, tous les cas de figure, chaque histoire avec un enfant est particulière. Donc on s'adapte à chaque fois.
Et alors, il y a des bénévoles qui interviennent à l'intérieur de votre association auprès des enfants ?
Exactement, on a une équipe, alors l'association Petit Prince, c'est plus de 100 bénévoles qui viennent 2 à 3 jours par semaine, donc c'est un engagement qui est très impliquant, plus 30 salariés, et évidemment, les bénévoles sont toujours présents pour accompagner les enfants, pour monter le rêve, pour organiser le rêve, pour être en contact avec l'enfant et sa famille pendant des longs mois, voire parfois sur des années. Comme je vous le disais, l'association Petit Prince, tant que l'enfant en a besoin, est présente et réalise potentiellement plusieurs rêves avec cet enfant. Donc oui, c'est un engagement qui est très très fort. Pour être bénévole, il faut être en région parisienne parce que pour des soucis de formation et de coûts, tous nos bénévoles qui suivent les enfants habitent en région parisienne. Après, il y a d'autres personnes qui habitent en province et notamment, je sais qu'il y a pas mal d'actions qui sont menées dans la Marne, Haute-Marne et Ardennes par rapport au territoire que vous couvrez, oui. Qui aussi parfois œuvrent alors plus par exemple pour faire des opérations à notre profit, ça peut être des écoles, ça peut être des Lions clubs, ça peut être des clubs sportifs, voilà toute forme d'implication et d'engagement qui nous permet au final de réaliser nous des rêves d'enfants gravement malades.
Alors quand on écoute le message sur le répondeur de votre association, on a une voix très charmante d'enfant qui réalise son rêve et ça donne envie d'être bénévole, je vous dirais, rien que d'écouter. Mais est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de rêves réalisés?
Alors, on va vraiment être dans l'actu parce que hier soir, en fait, il y avait les illuminations des Champs-Élysées. Alors, c'est un moment qui est extrêmement fort. On avait deux enfants, deux petites princesses de 8 ans qui connaissaient pas très bien Paris. Justement, la maman nous a indiqué que la connaissance de Paris pour sa petite fille, c'était juste les rendez-vous à l'hôpital. Donc, vous voyez un petit peu le climat. Et là, ça a été les stars de la soirée parce qu'elles étaient en contact avec Tony Estanguet pour allumer les Champs-Élysées devant 130 000 personnes sur un podium. Donc c'était émotion très très forte. Moi j'ai eu la chance d'être sur le rêve aussi avec les parents et je peux vous dire que les parents ils puisent aussi une énergie incroyable pendant ces moments-là. Donc voilà, c'est des moments très très forts. Je peux vous partager une petite Rose qui a 9 ans et qui est passionnée, qui rêve de faire de la danse classique mais qui a pas trop eu encore l'occasion à cause de ses traitements, ses séjours à l'hôpital. Elle adore le dessin animé Ballerina, c'est ça un peu qui lui a donné envie. Et pour vous dire, sa maman nous a dit qu'elle s'entraînait un peu chez elle à faire son grand écart ou de faire de la barre avec le dos du canapé. Et pour cette petite princesse, on va justement faire un rêve incroyable à l'Opéra Garnier où elle va rencontrer les danseurs, où elle va découvrir les coulisses d'un ballet. Donc c'est dans ces moments-là que les enfants aussi puisent aussi une énergie. Et puis vous doutez bien, après 37 ans d'existence, nous on essaie toujours que les rêves soient le plus magiques possible, donc la barre est très très haute. Ouais. Ça peut être des rencontres d'artistes, ça peut être un enfant passionné par un grand chef au niveau de la pâtisserie. Vous voyez, les rêves sont très variés.
Et alors il y a des voyages bien. Aussi possibles? Non, peut-être pas.
Alors c'est pas trop sous forme de voyage. En revanche, ça nous est arrivé déjà de temps en temps que des enfants passionnés, par exemple, par une culture différente ou des enfants qui rêvaient de découvrir New York et on a organisé un collectif. Mais on n'organise pas en tant que tel de voyage.
D'accord.
Après, c'est vrai que si vous voulez, les voyages, alors ça peut être un service pédiatrique où les enfants peuvent, là je pense à justement un projet où c'est des enfants qui vont font une initiation autour de la voile. Ils partent à Quiberon avec tous les enfants du service plus les soignants, c'est une cinquantaine d'enfants. D'accord. Et là ils vont passer 3-4 jours à Quiberon. Donc là c'est encore un peu différent par rapport aux rêves qu'on réalise classiquement. Là c'est des soutiens qu'on apporte au service pédiatrique et là où ils emmènent des enfants et accompagnés de leurs soignants. C'est une autre démarche, mais voilà, c'est pour montrer aussi qu'on est présent dans l'amélioration des conditions d'hospitalisation des enfants.
Alors vous parliez de l'Île-de-France, mais vous parliez aussi d'actions dans la Marne et Haute-Marne et Ardennes. Et alors justement, actuellement, vous avez un partenariat dans la période qui va nous amener jusqu'à Noël. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, c'est un très très beau partenariat qu'on a depuis 10 ans avec les Compagnons du Goût. C'est un très très beau label de charcutiers bouchers qui sont à nos côtés chaque année. Ils ont une opération qui est au profit de l'association Petit Prince et cette année c'est des crackers avec des papillotes. Donc vous allez pouvoir découvrir plein de papillotes, donc ça c'est vraiment génial, qui sont vendus 3 € et les 3 € sont intégralement reversés à l'association Petit Prince. Donc ça c'est une action qui a lieu jusqu'au 22 décembre, qui vient de commencer. Et donc là s'il y a des gens, des auditeurs qui nous entendent, ils peuvent aussi nous aider via ce concours en achetant ces petites papillotes vendues intégralement au profit de l'assaut Petit Prince.
D'accord. Et là, c'est dans des charcuteries.
Exactement, charcutier-boucher du label Les Compagnons du Goût.
D'accord, alors il y en a dans plusieurs endroits.
Oui, le mieux c'est d'aller voir sur le site internet des Compagnons du Goût, où il y a une liste justement des bouchers-charcutiers qui sont référencés, qui participent à l'opération. Oui, tout à fait, ce serait plus simple.
D'accord, bon, et puis de toute façon, quand les gens sont devant l'aventure, ils voient et ils sont attirés par le logo et puis ensuite par les crackers.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup parce que
c'est
vraiment une association qui donne envie de vivre. Voilà.
Et d'aider. Résumé, on est dans la vie.
Hein, voilà.
On est, ouais.
Et puis, le caractère tellement extraordinaire qui donne quoi, des lumières dans les yeux des enfants qui ont tellement besoin de soutien. Et je pense aussi tout particulièrement aux parents qui se sentent aussi épaulés à travers ce défi qu'ils ne pourraient pas faire eux-mêmes, en fait.
Tout à fait, c'est une question aussi d'énergie. Les parents, ils sont parfois désœuvrés. Leur priorité, c'est que l'enfant guérisse. Et parfois, voilà, ils n'ont pas l'énergie, le temps, et c'est là où nous, ça devient un projet familial et les parents en profitent autant que l'enfant et c'est une source aussi de bonheur et de pour se ressourcer. Donc voilà, s'il y a des gens aussi parallèlement qui veulent nous aider et qui peuvent aller sur notre site petitprince.com, sachez que nous, on n'a aucune aide publique et la petite rectifie par rapport à ce que vous avez dit, c'est pas un rêve par jour, mais on est à 2 rêves par jour actuellement qui sont réalisés.
Magnifique.
C'est près de 600 rêves d'enfants.
Ah.
Donc voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent nous aider, en tout cas, c'est très facile de faire un don en ligne sur le site petitprince.com.
Oui, j'avais été émerveillée de penser que vous pouviez même offrir plusieurs dons à un seul enfant.
Plusieurs rêves, ouais, tout à fait, exactement, ouais.
Bon.
Bah oui, c'est la particularité de l'association Petit Prince. En tout cas, merci beaucoup.
En tout cas, merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir, très bonne journée, au revoir.
Merci bien.
Voilà, c'était Solidarité avec l'heure de la Julie de RCF, cœur de Champagne, 16h26 tout juste. On va parler littérature et quelques idées de lecture avec deux romans que nous propose Thierry Livoire autour des liens familiaux. Bonjour. Bienvenue dans Presto Livre, où il sera question cette semaine de deux romans sur les liens familiaux. Le premier que je souhaite vous présenter s'intitule « Tout ce qui brûle ». Il paraît aux éditions Joël Losfeld et est signé Lisa Harding. Lisa Harding est une dramaturge et actrice irlandaise. Son premier roman « Abattage », salué par la critique, mettait en lumière les très jeunes filles victimes de la prostitution forcée en Irlande. Avec ce deuxième roman, elle continue d'explorer le thème de l'innocence de l'enfance abîmée par le monde des adultes. Voici l'histoire. Sonia est une jeune mère célibataire, ancienne comédienne en mal de paillettes, aux besoins irrépressibles d'amour et de reconnaissance. Elle aime plus que tout son fils de 4 ans, Tommy, et avec leur chien Herbie, ils forment un trio indéfectible. Dans la banlieue dublinoise, la famille vit en vase clos au rythme des excès de Sonia. Excès de vitesse, excès d'amour, excès d'alcool, car Sonia boit, parfois au point de mettre la vie de son fils en danger. Un jour, son père fait un retour décisif dans sa vie et l'emmène dans un couvent réaménagé en centre de désintoxication, pendant que Tommy est placé par l'assistance sociale. Lisa Harding livre un roman au réalisme sans fard, tenant le juste équilibre entre humour et émotion. Porté par l'urgence, Tout ce qui brûle fait avant tout le portrait d'une relation fusionnelle qui unit une mère à son fils. Le second roman sur lequel je souhaite attirer votre attention s'intitule « La fin des abeilles ». Il paraît aux éditions Gallimard et est signé Caroline Lamarche. Née à Liège, Caroline Lamarche a passé son enfance et sa jeunesse en Espagne, puis en région parisienne.
Après des études en Belgique, elle part en Afrique, où elle enseigne le français et l'anglais, avant de revenir en Belgique. Elle a récemment publié aux éditions Gallimard « La mémoire de l'air » et « Nous sommes à la lisière », prix Goncourt de la Nouvelle en 2019. Une nuit, la narratrice rêve que sa mère, handicapée et malvoyante, parcourt à pied dans l'obscurité les 100 kilomètres qui les séparent. Ce rêve inaugure un temps durant lequel, dans la grande et brave maison où la mère voudrait mourir parmi les siens, se renoue un lien ambivalent mais tenace. 5 ans plus tard, la presque centenaire assumera avec courage la nécessité de son placement dans un établissement de soins. Cet exil se doublera du confinement imposé par la pandémie, la voix de la mère au téléphone constituant l'unique vecteur de sa révolte. La mort l'emporte sans qu'elle ait pu revoir ses enfants. Mais ce qu'elle a voulu faire de sa fin offrira une lumineuse consolation au désarroi familial. Avec l'intensité et l'humour qui lui sont familiers, Caroline Lamarche rend hommage au dernier combat d'une très longue vie. Je vous rappelle les références des ouvrages présentés aujourd'hui. « Tout ce qui brûle » par Lisa Harding aux éditions Joël Losfeld et « La fin des abeilles » par Caroline Lamarche aux éditions Gallimard. Bonne lecture.
Il est tout juste 16h30 sur RCF Reims-Ardennes. Merci à vous Thierry Livoire pour ces nouvelles idées de lecture. Il est 16h30, donc comme je vous le disais, on retrouve tous frères et sœurs avec Bénédicte Cousin et Sylvie Lahotte. On va parler de protection de l'enfance aujourd'hui.
Bonjour à tous les auditeurs de RCF qui nous écoutent dans les Ardennes, dans la Marne, autour de Reims. Aujourd'hui, dans notre émission diocésaine, tous frères et sœurs, j'ai comme invité avec moi Sylvie Lahotte. Bonjour Sylvie.
Bonjour Bénédicte.
Et Sylvie vient nous parler de sa mission pour le diocèse de Reims et les Ardennes au niveau du dispositif Stop Abus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, on va un petit peu détailler l'historique un peu de ce dispositif et de votre mission aujourd'hui pour le diocèse. Comme il est de règle un peu dans cette émission, peut-être que vous pourriez vous présenter pour les auditeurs.
Oui, ben alors Sylvie Lahotte, j'étais auparavant responsable de la pastorale des 12-18 ans jusqu'au 1er septembre et donc la mission a changé. J'ai une responsabilité pour la mise en place des patronages et aussi pour l'application du processus Stop Abus.
Effectivement, si on rappelle aux auditeurs, suite au rapport de la SIAZ qui a été fait en octobre 2022, les deux assemblées plénières suivantes en novembre 2022 et en printemps 2023, tous les évêques de France ont acté ce rapport de la SIAZ et qui faisait état d'un nombre d'abus phénoménal qui touchait toute l'Église de France et donc ont pris à l'assemblée plénière du printemps 2023 des mesures radicales à adopter dans les diocèses pour lutter contre ces abus, pour protéger tous les enfants, tous les mineurs. Et notre diocèse s'est mis aussi en chemin dans la protection de l'enfance. Et nous avons plein de choses que nous pouvons déjà d'ores et déjà dire aux auditeurs. Si vous nous parlez du conseil de vigilance, peut-être.
Oui. Alors, il y a eu chaque diocèse des propositions diverses pour rendre l'Église la maison sûre. Donc, le premier palier, ça a été de mettre en place sur notre diocèse, couplé avec le diocèse de Chalon, une cellule d'écoute que vous pouvez joindre, que n'importe qui peut joindre sans problème. Hein, les références sont toujours données. Suite à la cellule d'écoute, a été mis en place un conseil de vigilance avec notre archevêque, le père de Moulins-Beaufort. Nous sommes une dizaine de personnes au conseil de vigilance. Donc, il y a un médecin, un pédiatre en retraite, des personnes qui ont été engagées sur des associations de jeunes. Il y a aussi une psychologue. Enfin, voilà, il y a plusieurs personnes au conseil de vigilance où on reprend les suites de la cellule d'écoute. On nous donne les différents sujets s'il y en a. Et puis, tout ça fonctionne aussi avec la convention qui a été faite avec le procureur de Reims et la procureure des Ardennes. Parce que ça, c'est très important, c'est ce qui a été mis en place aussi. C'est-à-dire que dès l'instant que notre archevêque est alerté sur un cas, un sujet, il en réfère au procureur. Et dans le même sens, le procureur réfère à notre archevêque s'il a des questions, enfin, s'il a une enquête à faire. Ça, c'est très important, parce que on ne peut pas dire ils étaient au courant, ils n'ont pas passé. Maintenant, voilà. D'un côté comme de l'autre, automatiquement, les sujets seront traités. Donc, suite à ce conseil de vigilance, ben, on s'est dit il faut mettre quelque chose en place pour le diocèse, pour tous les jeunes. Et donc, on a mis en place le processus Stop Abus, alors qu'on n'a pas inventé, parce que c'est le diocèse de Paris qui a tout de suite répondu et qui a organisé ce processus. Et donc, là encore, on a fait une convention avec le diocèse de Paris pour appliquer ce processus dans notre diocèse.
Et alors, ce processus, c'est un processus pour protéger les mineurs, mais qui se fait au niveau de toutes les personnes qui accompagnent les jeunes.
Voilà, tout majeur en lien avec des mineurs sur notre diocèse. Alors c'est très très vaste, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incompréhension parce que, en se disant, effectivement, de toute façon, on ne cible pas en disant ça va arriver, c'est pas le cas, mais c'est aussi d'ailleurs pour protéger les majeurs. Ça, je pense que les adultes n'ont pas ça en tête, mais on doit appliquer ça, c'est obligatoire pour un côté comme de l'autre. Alors évidemment, on pense aux abus sur les mineurs, mais il faut pas qu'il y ait non plus des déviances où on accuserait des majeurs. Donc c'est tout simple. En fait, on demande à chaque espace missionnaire de nommer deux personnes qui n'ont pas de lien avec des jeunes, pas trop de lien, pas d'engagement avec des jeunes. Ces deux personnes vont récolter, je vais dire entre guillemets, les noms, les coordonnées des adultes, des majeurs en lien avec des mineurs sur leur espace missionnaire. On va leur demander de vérifier leur extrait de casier judiciaire. B3. Simplement de le présenter, hein. On ne demande pas de l'envoyer. Si on l'envoie, on l'envoie, mais de toute façon, on ne le garde pas. C'est simplement de vérifier que c'est vierge, quoi, qu'il n'y a pas de notification. Une fois que ça s'est présenté, les responsables, les deux responsables qui sont nommés par les équipes pastorales ou par le vicaire forain, m'envoient ce tableau avec les coordonnées des personnes qu'ils ont acté le casier judiciaire. Et là, moi, je les inscris à une e-formation. Donc, c'est une petite vidéo qui va retracer les lois, comme la connaissance des lois jeunesse et sport, la connaissance au niveau de la santé, etc. Ça dure une heure un quart, 1h20, un petit peu, sur l'informatique, c'est oui, à peu près ça. Et là, vous sera décerné un certificat, comme quoi que vous avez bien fait la e-formation, que vous êtes bien au courant de tout ce qui est mis en place, de tout ce qu'on doit mettre en place, avec toutes les références, du palais de justice, du procureur, le 119, enfin, il y a toutes les associations, tous les lieux qu'on peut appeler si on constate quelque chose. Et une fois que ça c'est fait, on fait des regroupements avec ce qu'on appelle une formation en présentiel.
Vous réunissez les animateurs qui ont suivi ce premier palier de formation en ligne, chacun de son côté, pour une formation en présentiel.
Voilà, pour une formation en présentiel, alors avec des cas concrets, encore une fois, être sur la réalité de terrain. Et puis, dans ces rencontres, donc, nous aident plusieurs personnes. Nous avons une avocate, nous avons une psychologue scolaire, un pédiatre, et puis aussi un prêtre et une jeune maman qui ont été se former sur Paris parce que la CEF, la Conférence des évêques de France, a mis des formations en place suite au rapport de la SIAZ, où là, c'est plus poussé dans les connaissances et dans les processus à prendre au code de justice, etc. Donc, c'est un jeune prêtre ardennais, une jeune maman ardennaise. L'avocate et la psychologue sont rémois. Le pédiatre est ardennais aussi. Voilà, on essaye d'avoir sur les deux départements parce que c'est très important.
Et alors, du coup, si j'entends bien, là, ce dispositif, il a été lancé dans notre diocèse. Et en gros, vous en êtes où des formations?
On va pas dire on en est où des formations. Enfin, ouais. Si, la e-formation, on a déjà 287 personnes qui ont fait la formation.
Ah oui, c'est énorme.
Ah oui, oui. Mais Malheureusement, je ne peux pas dire que chaque espace missionnaire m'a donné les coordonnées de tous les majeurs en lien avec des mineurs. Bon, c'est vrai que c'est, j'avoue que c'est un peu compliqué quand même pour les personnes de cibler. Bon, aussitôt, on pense à la catéchèse, mais il n'y a pas que la catéchèse, il y a l'aumônerie, il y a les sacristains, il y a les servants d'hôtel. Bon, les mouvements, les trois familles scouts, eux, ont un processus à part. C'est déjà depuis 2018, si on n'a pas fait cette formation-là que nous on appelle la e-formation, eux c'est la formation sur la bientraitance, si on n'a pas fait cette formation-là, on ne peut pas s'inscrire chez les scouts. Enfin, chez les scouts et guides de France, les SUF et les Europe sont en train de suivre. Donc, bon, bah, eux, c'est, ça va, mais pour le diocèse, ben, je vous dis, il y a les servants d'hôtel, les sacristains, le brave monsieur qui entretient le jardin du presbytère et qui peut se retrouver avec les enfants, enfin, vous voyez, la palette vraiment très très large, donc c'est compliqué pour les espaces missionnaires de renvoyer.
Mais ce qui est intéressant de se dire, c'est que c'est un mouvement en fait que tous ceux qui sont dans le diocèse en lien avec des mineurs sachent qu'effectivement qu'il y a ce dispositif qui existe et que il y a différents paliers de formation, mais que tout ça c'est pour un mieux-être ensemble, pour ce que vous disiez au début, c'est construire cette maison sûre ensemble.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je redis, c'est autant pour les majeurs que pour les mineurs. Parce que quand on voit ce qui... On peut avoir des accusations contre une personne majeure qui n'a pas lieu, quoi. Et donc, il faut arrêter tout ça. Et puis, c'est surtout protéger les enfants. Alors, vous allez me dire que on n'a plus lieu de voir tout ça, mais on peut arriver sur une jeune qui a des soucis dans sa famille et qui vient se confier à la catéchiste. Ben voilà, comment on peut réagir? Ça, c'est important.
Oui, il ne faut pas forcément voir tout de suite, quand on dit stop abus, il faut effectivement être sensibilisé aux différentes formes d'abus, ça c'est sûr, mais aussi comment on peut, avec les personnes rencontrées qui sont mineures, les accompagner si jamais elles sont dans une situation. Et je pense que les formations, à la fois la e-formation rappelle les règles, mais la formation en présentiel rappelle comment agir derrière.
Ah oui, complètement. La formation en présentiel est très très importante parce que, je vous disais, c'est des cas concrets, hein. On étudie des cas concrets et du coup, on rentre, je vais dire, dans le dur du sujet. Comment je peux me retrouver? Il y a un des cas concrets, c'est, des catéchistes ont été avec le prêtre faire un signalement pour une enfant qui était abusée et le père arrive à la permanence du presbytère en voulant régler ses comptes. Alors, la pauvre dame qui est là à l'accueil est bien ennuyée et puis comment on gère un tel souci, quoi. Mais ça, c'est important. C'est pas le fait de dire ça va arriver, etc., mais ça peut arriver, et en sachant comment faire, les pistes qu'on peut avoir, ça aide énormément.
C'est une formation à mieux être ensemble et mieux tous se protéger les uns les autres, parce qu'on sait qu'il y a des situations qui peuvent être difficiles, et donc comment accompagner au mieux les gens qui les vivent.
Voilà, exactement. Alors, on a eu, au moment de la sieste, on a eu une pièce de théâtre sur le pardon, hein, qui a tourné dans 2-3-4 lieux, je crois, sur notre diocèse. Là, on est en lien avec la CRIAS, donc c'est un centre de recherche sur Reims, pour la Champagne-Ardenne, c'est Champagne-Ardenne. Et il y a une pièce de théâtre qui est proposée et qui va au-delà, si vous voulez, de la loi, au-delà des sentiments, où il y a vraiment une introspection pour soi-même, quoi. Alors, je suis en recherche d'une salle où on puisse mettre en scène cette pièce de théâtre parce que c'est très important. Les acteurs sont au centre et le public tout autour avec des interférences dans le jeu des comédiens. Et c'est quelque chose qu'on proposera pas qu'à l'église, où on veut que ce soit proposé aussi pour tous les laïcs, pour les gens lambda. Alors, je suis en lien avec la mairie de Reims. Bon, je pense qu'on devrait arriver à trouver quelque chose.
En tout cas, vraiment, merci d'être venu nous parler de ce dispositif. Peut-être, on peut dire, un sujet difficile, mais vraiment très important. Et puis, sachez que donc, dans le diocèse, il y a vraiment des gens qui se mettent en marche pour protéger à la fois donc, tous ces mineurs qui sont en lien avec l'Église, mais aussi tous les majeurs, et faire que tout le monde puisse vivre dans cette maison sûre.
Voilà, tout à fait. Très
merci
important.
Beaucoup, Sylvie, puis bonne continuation pour cette mission.
Merci.
Merci à toutes les deux, Bénédicte Cousin, et à vous, Sylvie Lahotte, pour ce nouveau magazine de Tous Frères et Sœurs. Il est bientôt 17h, les clés de l'univers avec Daniel Dermy. Avant, c'est le magazine Forum avec Jean-Pierre Benoît. On va parler du recrutement à la gendarmerie avec le major Corinne Marchand. Mais pour l'heure, c'est la question d'économie de Gérard-Marie Henry. Il revient sur les difficultés d'ArcelorMittal.
La question d'économie avec Gérard-Marie Henry, avec nous dans le studio. Gérard-Marie, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Gérard-Marie, je vais commencer cette chronique de façon un petit peu véhémente, mais il y en a marre. C'est la deuxième semaine consécutive que vous venez en nous annonçant des mauvaises nouvelles. On parlait la semaine dernière de Reims Aviation, Reims Aerospace. Cette semaine, on va parler d'ArcelorMittal, qui est quand même un modèle totalement différent que Reims Aerospace. Là, on parle d'un gros groupe mondial qui a plusieurs sites à travers la France, un peu plus d'une quarantaine, notamment 40 sites de production. Et pourtant, il y a des salariés rémois qui, une nouvelle fois, vont rester sur le carreau, Gérard-Marie Henry.
Oui, alors effectivement, c'est un peu désastreux. Et on peut raconter un peu pourquoi on a ces difficultés d'Arcelor, enfin ce groupe très important dont vous parlez, qui a une histoire assez longue de fusion entre groupe français, groupe belge et puis un Mittal indien pour arriver à ce groupe ArcelorMittal, un groupe international. Et en fait, les difficultés d'Arcelor, si on les résume d'abord de façon globale, c'est un problème de production sidérurgique qui s'écoule moins. On construit moins de voitures, on construit moins d'équipements qui nécessitent beaucoup d'acier, le bâtiment freine. Donc tout ça fait que la demande en France de produits sidérurgiques est beaucoup plus faible qu'auparavant. Ça c'est le premier point qui touche Arcelor. Le deuxième point c'est que Arcelor de la France exportait sur des marchés tiers. Les marchés de l'Europe du Sud, les marchés du Maghreb, etc. Et ces marchés-là maintenant ont été raflés par les sidérurgistes chinois qui produisent à des coûts beaucoup moins élevé qu'Arcelor parce qu'ils ont des surcapacités et ils s'en foutent, ils ont produit des tonnes d'acier, vaut mieux les vendre à très bas prix que de les garder. Donc ils cassent les prix sur les marchés mondiaux. Ça c'est la deuxième grosse difficulté d'Arcelor. Puis la troisième difficulté qui vient s'ajouter aux deux premières, c'est les contraintes environnementales que met la Commission européenne sur tous les émetteurs de gaz à effet de serre. Or, la sidérurgie, c'est un gros émetteur. Il faut beaucoup d'énergie pour prendre du minerai de fer, le fondre, faire de la fonte, du fer, de l'acier. Donc, ça balance pas mal de CO2 dans l'atmosphère. Et on a dit à ces sidérurgistes, donc Arcelor, il faudrait trouver des solutions pour produire moins de CO2. Débrouillez-vous, essayez de faire une production sidérurgique décarbonée. Alors là, c'est compliqué, parce que il va falloir faire de l'hydrogène qui est vert, enfin qui essaye d'être vert, c'est-à-dire qui n'est pas fait en chauffant de l'eau, en faisant l'électrolyse avec de l'énergie normale. Donc Arcelor avait un énorme plan de décarbonation qui devait lui coûter plusieurs milliards. J'ai plus le chiffre en tête, mais je pense que c'est au moins 3 milliards d'euros. Et puis là, il vient de dire, écoutez, je fais pas parce que ça va pas bien, j'ai pas les moyens, etc. Et donc, il y a une grosse inquiétude, puisqu'il y a une barrière, 2030. En 2030, il faut que l'industrie sidérurgique ait réduit de 30% ses émissions de gaz à effet de serre. Et si Arcelor ne met pas en place ses nouvelles méthodes, il sera obligé de fermer la boutique.
Gérard-Marie Henry, avant que vous puissiez continuer votre argumentaire, je vais aller dans votre sens juste le temps d'un instant. C'est vrai qu'ArcelorMittal, on a presque envie de les plaindre. Des petites recherches, 2007-2020, chiffre d'affaires presque divisé par deux. On va dire un bon tiers du chiffre d'affaires de perdu. Mais par contre, ça reste quand même le deuxième plus important producteur d'acier au monde. Plus de 79 millions de tonnes produites, le chiffre de 2021. Et c'est le 156e groupe dans le classement des plus grandes sociétés du monde. J'ai envie de vous dire, Gérard-Marie Henry, il y a plus d'un auditeur de RCF qui aimerait avoir les mêmes difficultés qu'ArcelorMittal aujourd'hui.
Oui, c'est très bien les chiffres que vous nous donnez. Ils sont tout à fait intéressants. Maintenant, quelle est la rentabilité? Encore une fois, quand on regarde une entreprise, on se fiche un peu de savoir combien de tonnes de trucs ou combien de voitures elle vend. C'est qu'est-ce qu'elle gagne par voiture, par tonne d'acier. Et là, la rentabilité d'Arcelor, elle est pas bonne. Si elle était bonne, on verrait le cours d'Arcelor à la bourse grimper. Les bonnes entreprises qui ont des marges importantes, au hasard, LVMH, Air Liquide, on voit leur cours qui monte parce que ils gagnent beaucoup d'argent chaque fois qu'ils vendent un truc. Tandis qu'Arcelor, c'est un peu comme Carrefour, il a un gros chiffre d'affaires, mais il a une marge qui est faible. Et donc, c'est ça aussi qui coince, c'est-à-dire, quand j'ai une marge faible, si je veux faire un gros investissement, ben, je peux pas le sortir de ma poche, parce que j'ai pas fait beaucoup de profit, faut que j'emprunte.
Alors ça, Gérard-Marie-Henri, j'allais dire, c'est une vision vue d'au-dessus pour essayer de renflouer un petit peu les caisses. Mais comment on en est arrivé à ce que ce soit le site de Reims ou le site de Denain aussi d'ailleurs, que l'on peut nommer dans le Nord, que ce soit ces sites-là qui soient choisis pour fermeture?
Ah, alors là, c'est une autre question. Ce ne sont pas des sites de production, ce sont des sites de distribution. En fait, le site de Reims, dont on parlera peut-être une autre fois, il vient d'une entreprise qui a été créée en 1948 qui s'appelait les produits des usines métallurgiques. PUM, P-U-M, produits des usines métallurgiques, et qui avait donc comme caractéristique de servir d'intermédiaire entre les producteurs d'acier et puis les petits utilisateurs. Donc c'était une sorte de supermarché des produits sidérurgiques. Et donc c'est ça qui maintenant n'a plus tellement d'intérêt, puisqu'il y a moins de consommateurs de produits sidérurgiques, que les grands groupes peuvent faire directement leurs ventes. Donc un organisme comme l'ancienne PUM, ça n'est plus tellement à l'heure du jour.
Et alors
donc,
Gérard-Marie-Henri, gardez du biscuit. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue sur ArcelorMittal aujourd'hui, et puis on parle de la PUM la semaine prochaine, mais c'était quand même pour parler aussi ce contexte local qui est urgent.
D'accord, mais alors, là c'est différent des gros problèmes de difficulté du marché de l'acier. C'est la façon dont on le distribue qui a changé. On n'a plus besoin d'un distributeur local, supermarché, etc. On peut faire directement, on peut commander directement. On a des applications qui permettent. Donc le site de Reims, il ne sert pas à grand-chose.
Bon, on y reviendra alors peut-être la semaine prochaine, si vous le voulez bien, Gérard-Marie-Henri. On revient sur les difficultés d'ArcelorMittal au niveau du marché global de la sidérurgie. Est-ce que la situation que vit ArcelorMittal, c'est une situation similaire à ce que vit ses concurrents?
Oui, les concurrents européens, bien sûr. Les concurrents européens ou américains. Aux États-Unis, on a un gros débat. Est-ce qu'il faut laisser US Steel se faire racheter par son concurrent japonais? Et donc, avec l'élection d'un nouveau président, c'est pas sûr qu'il accepte. Mais c'est pareil, US Steel a les mêmes problèmes, car c'est ArcelorMittal, un marché qui diminue, puisqu'on construit moins de voitures, etc. Des coûts importants, puisqu'il a une main-d'œuvre syndiquée, etc. Donc, on a les mêmes difficultés ailleurs. Et c'est pour ça que les différents gouvernements, et en particulier la Commission européenne, demande à ce que les barrières qu'on met autour de ces secteurs en difficulté soient plus élevées. On ne fait pas les menaces que fait Trump, mais on a quand même décidé de protéger ces secteurs qui sont touchés de plein fouet par la concurrence chinoise.
Alors, puisque l'on parle des Américains qui essayent de sauver leurs industries, est-ce qu'en France, dans le contexte économique que vous nous avez déjà expliqué et présenté et qui est plus qu'incertain, Gérard-Marie-Henri, est-ce que la France a les moyens de pouvoir sauver ses industries et notamment la sidérurgie?
Il faudrait que Bruxelles accepte de changer un peu les règles et repousse de quelques années les contraintes environnementales. Mais évidemment, on aura les écolos sur le dos. Mais si on avait un objectif 2040 au lieu de 2030, à ce moment-là, on aurait la pérennité de la sidérurgie européenne. Si on a le couperet qui tombe en 2030, ça va être très dur.
Eh bien, j'ai envie de dire, affaire à suivre. Gérard-Marie-Henri, on va se projeter sur les prochaines années et puis on aura l'occasion de voir comment ça se dessine. On vous dit à très bientôt et à la semaine prochaine pour revenir à Reims alors.
On se retrouve la semaine prochaine.
La question d'économie, c'est chaque semaine avec Gérard-Marie-Henri, une chronique que vous pouvez entendre en première diffusion le jeudi en direct dans le magazine régional à 18h10. On continue notre programme, la gendarmerie recrute. C'est Jean-Pierre Benoît qui nous le dit avec son invité, le major Corinne Marchand.
Forum Jean-Pierre Benoît.
Major Corinne Marchand, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Vous êtes accompagné, vous êtes en présence aujourd'hui de l'adjudant-chef Véronique Barral, qui est à vos côtés. Alors, c'est un rendez-vous, j'allais dire, à quelques semaines de Noël à chaque fois.
Oui.
Vous venez nous rendre visite parce que pour des jeunes qui nous écoutent, pour des familles, des parents, des grands-parents, c'est le moment de s'interroger parfois sur l'avenir. Et l'avenir, il vient vite, surtout si ça se passe en cours d'année, au mois de juin. Et en particulier, vous proposez, avec la gendarmerie, des concours d'officiers, de sous-officiers sur le terrain, des sous-officiers qui sont dans l'administration ou des gendarmes adjoints volontaires. Alors, Major Corinne Marchand, le concours d'officier, on peut s'inscrire et quelles sont les conditions? D'abord, on peut s'inscrire en ce moment.
On peut s'inscrire depuis le 3 septembre jusqu'au 10 janvier 2025. Donc effectivement, on a encore un petit délai. Et les conditions, ben, en fait, il y a surtout des conditions d'âge, 18-27 ans au dépôt de la candidature, nationalité française. Le diplôme, c'est un bac plus 5, un master 2. De n'importe quelle filière, avoir effectué la journée de défense citoyenneté et être apte physiquement.
Alors, suivant le profil, vous pouvez passer un ou plusieurs concours, ça dépend des personnes, suivant leur profil universitaire, s'ils sont en sciences, sur titre aussi.
Exactement, quand ils se présentent à nous, en fait, suivant leur filière, on va les aiguiller.
Là, c'est quand même des bacs plus 5, là, c'est des étudiants déjà qui sont en fin de cursus. Mais alors, qu'est-ce que vous leur proposez comme formation à la gendarmerie?
Alors, c'est une formation de 2 ans, une formation militaire, au cours de laquelle, en fait, on va leur donner tous les outils pour pouvoir justement manager des hommes, parce que ce sont des officiers. Donc en fait, ils vont avoir des postes de commandement ou des postes à responsabilité de haut niveau. Donc,
leur officier, cœur de l'action, comme vous dites.
Oui, au cœur de l'action, tout à fait. Hein. Ils ont des décideurs à la tête d'une équipe professionnelle et donc obligatoirement, il faut qu'ils soient énormément formés.
Bon, je sais que c'est pas ce qui attire, mais enfin, faut quand même donner une idée du salaire, en tout cas du début, parce que ensuite, ça progresse, hein, on imagine.
Oui, tout à fait. En début de carrière, ils ont comme solde, puisque nous sommes militaires, 2780 euros net, plus effectivement le logement de fonction.
Ça, c'est le concours d'officier. On peut s'inscrire jusqu'au 10 janvier. Petit détail technique, Major, comment on fait pour s'inscrire?
Faut aller sur le site officiel de la gendarmerie, lagendarmerierecrute.fr, et en fait, vous avez en fait des applications, et vous cliquez et vous vous inscrivez directement sur ce site officiel.
Alors ça, c'est pour les officiers, mais il y a aussi les sous-officiers. Et dans les sous-officiers, il y a les sous-officiers qui sont sur le terrain. Et là, les inscriptions, il faut se presser parce que c'est jusqu'à la fin de l'année, non?
Oui, jusqu'au 31 décembre 2024, effectivement. Là, le délai est un peu plus court.
L'âge de condition
17-35 ans au 1er janvier de l'année du concours. Et toujours les mêmes conditions, sauf que là, au niveau du diplôme, ça va être le bac, on va dire minimum.
La formation que vous allez proposer à la gendarmerie?
12 mois de formation au cours de laquelle on va leur donner justement une formation militaire. Il va y avoir aussi une formation au niveau du maintien de l'ordre, police judiciaire, police de la route, du sport, du tir, de la théorie, de la pratique.
Il y a beaucoup de possibilités, hein.
Oui,
beaucoup de possibilités, oui. Pour des jeunes. Et ils peuvent être affectés partout en France et ils ont le choix, enfin comment ils font?
Partout en France, sauf que au cours de leur formation justement, ils vont avoir des notes, notes moyennes, un classement. Et le premier va choisir dans les postes proposés et le dernier va prendre ce qui reste.
Donc là, c'est jusqu'au 31 décembre, oui. Il faut se presser. Il faut aller bien sûr sur le site de la gendarmerie. Le salaire à la sortie d'école?
2149 euros net, avec 9 semaines de congés par an.
9 semaines de congés, là, c'est
oui.
Pas mal. Hein.
Et plus une attribution de logement aussi, sans loyer.
Bravo, alors les sous-officiers de terrain, ceux qui sont, j'allais dire, un peu sportifs quand même, là, sur le terrain, il faut...
Un petit peu. Il y a des tests de sport également au niveau de l'oral, hein, donc obligatoirement, il faut s'entraîner un peu avant, mais ils peuvent aussi voir le parcours sur YouTube pour pouvoir s'entraîner auparavant.
Alors, Major Corinne Marchand, il y a aussi des sous-officiers qui sont dans l'administratif, qui ne sont pas sur le terrain. Vous appelez ça les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif. Là aussi, les inscriptions, alors là, c'est encore pire. Hein. Ils ont 4 jours, là. Hein. Depuis le 26 novembre, on est aujourd'hui, jusqu'au 30, donc il faut se dépêcher.
Oui, il faut se dépêcher. Alors, on a fait quand même déjà plusieurs rappels. Mais effectivement, ce sont des sous-officiers, des militaires, mais qui ne sont pas sur le terrain. Ce sont des administratifs qui sont dans diverses filières. Il y a la restauration, la mécanique, l'armurerie, la gestion immobilière, les ressources humaines, la comptabilité et la logistique. Ce sont des militaires, ils ont un uniforme, mais ils sont dans un service.
Et la formation, elle dure combien de temps?
Alors au départ, ils ont une formation, on va dire, commune militaire, qui se passe à Rochefort, et après, suivant leur filière, en fait, on va les former à leur formation, mais en gendarmerie.
Alors un salaire aux alentours de 1800 euros?
1790 euros avec 9 semaines de congés. Par contre, ils ont un statut différent puisqu'en fait ils ne sont pas en opérationnel, ils n'ont pas de logement de fonction. Mais ils ont une aide au logement et à l'alimentation.
Donc ça, c'est pour les sous-officiers du corps de soutien technique. Les inscriptions jusqu'au 30 novembre. Il reste 4 jours pour le faire, donc il va falloir se presser. Et puis, il y a les sélections de gendarmes adjoints volontaires. Alors là, l'inscription, elle se passe quand
Toute l'année. Toute l'année, le jeune de 17 à 26 ans peut justement se positionner, s'inscrire. Et nous le recevons sur Reims. Il a des tests de sélection. QCM de connaissances générales, QCM de compréhension de texte et un test de personnalité, puis après un entretien et également une lettre de motivation. Après, il va avoir une visite médicale parce que bah, nous sommes militaires, puis il va avoir 13 semaines de formation en école de gendarmerie.
Logement de fonction ?
Logement de fonction, 1200 euros à peu près.
Pour démarrer. Après, on monte évidemment.
Après, il y a un peu plus, mais il vit en genre de colocation et c'est un tremplin, on va dire, pour rentrer dans l'institution et il seconde le sous-officier dans toutes ses missions. En fait, il connaît toutes les missions et il aide le sous-officier dans toutes les missions au quotidien.
Mais est-ce qu'il y a une possibilité de promotion ? Est-ce que le gendarme adjoint volontaire peut-être devenir sous-officier ?
Bien sûr. Alors là, il n'y a pas de condition de diplôme, mais même sans ça, il peut accéder en interne au concours de sous-officier. Donc en fait, ça lui donne la chance. Même s'il n'a pas eu en fait l'opportunité d'obtenir un baccalauréat, eh ben, il peut évoluer au sein de notre institution.
Alors tout cela, évidemment, il faut s'inscrire sur Internet.
Hein. Toujours, on rappelle sur le site officiel, oui.
Il y a le concours officier jusqu'au 10 janvier, le concours sous-officier sur le terrain 31 décembre, le sous-officier administratif, là, faut faire vite, c'est le 39 oui. ans, et puis le gendarme adjoint volontaire, c'est toute l'année. Vous allez dans différents médias, ça fait partie de la communication, Corinne Marchand,
oui.
en tant que major, là,
vous
êtes sur la brèche. Vous êtes accompagnée, elle ne s'est pas exprimée aujourd'hui, mais par l'adjudant-chef Véronique Barral, qui est d'origine du sud de la France.
Oui.
Alors, c'était bien, parce que si on avait entendu il y avait un petit accent du côté de Montpellier, mais vous nous amenez le soleil, hein. Vous pouvez dire un petit mot quand même, vous nous amenez le soleil.
J'espère, oui,
oui, parce qu'en ce moment, je crois que ça se rafraîchit un petit peu. Hein. Vous venez du côté de Montpellier, mais vous avez un mari qui est lui déjà gendarme dans notre région. Alors vous allez faire le tour des médias
Oui, obligatoirement, on fait des salons, des forums. Hier, on était sur Charleville pour la nuit de l'orientation et on essaye de justement